L'essentiel, c'est la suite tout de suite sur France 24. On va plus loin avec Alban Micosi, grand reporter à France Télévisions. Bonjour Alban.
Bonsoir Raphaël, bonsoir à tous.
Face à vous, Bruno Daroud, on ne le présente plus, un chroniqueur international ici même à France 24. Bonjour Bruno.
Bonsoir Raphaël.
Au sommaire, désaccord sur la durée d'une trêve à Gaza. C'est la raison, semble-t-il, du blocage. Le Hamas tarde à répondre, alors que côté palestinien, on espère un cessez-le-feu permanent. Benjamin Netanyahou, lui, n'a pas renoncé à envahir Rafah malgré l'opposition américaine. Bis repetita en Géorgie, de retour devant le Parlement, l'examen du projet de loi pointant du doigt les prétendus agents de l'étranger virent à la foire d'empoigne entre députés. Le texte, inspiré par Moscou, est voté en deuxième lecture contre l'aspiration d'une partie des Géorgiens à rejoindre l'Union européenne. L'Union européenne qui condamne le recours à la force. C'est tout de suite, on va plus loin dans l'essentiel. Trêve ou pas à Gaza, la balle est dans le camp du Hamas. Le mouvement islamiste réserve toujours sa réponse, alors qu'Israël a dit attendre d'ici ce mercredi. En cause, la durée du cessez-le-feu qu'on voudrait permanent côté palestinien. Mais Benjamin Netanyahou, lui, n'entend pas renoncer à une offensive sur Rafah, malgré l'opposition réitérée des États-Unis, Pauline Godard.
Oui, et c'est bien là tout le problème. Benjamin Netanyahou campe sur ses positions lors de sa rencontre avec le secrétaire d'État américain Anthony Blinken. Tout à l'heure, il l'a dit et répété, l'opération sur Rafah n'est conditionné à rien. Il a également dit qu'il n'accepterait aucun accord prévoyant la fin de la guerre. Or, vous le disiez, le Hamas réclame un cessez-le-feu permanent dans la bande de Gaza, mais il réclame aussi le retrait total des troupes israéliennes de la bande de Gaza. Anthony Blinken, lors de cette rencontre, a lui réitéré la position américaine. Les Américains se disent toujours opposés à cette opération sur Rafah, tant qu'un plan réalisable n'a pas été élaboré et présenté pour protéger et évacuer les civils. Alors juste avant, Anthony Blinken a également rencontré les familles des otages américains qui sont toujours détenus dans la bande de Gaza. Il leur a fait part de son optimisme prudent. Il est vrai qu'ici, l'attente est très éprouvante pour ces familles des otages. Et Anthony Blinken, il faut le rappeler, était là aussi pour parler de l'aide humanitaire acheminée dans la bande de Gaza. On sait que les États-Unis mettent la pression sur Israël pour que plus d'aide soit acheminée dans la bande de Gaza. Effet important, le point de passage d'Erez, le seul point de passage qui se trouve au nord de la bande de Gaza, eh bien, a été rouvert aujourd'hui. Une trentaine de camions venant de Jordanie ont pu passer ce point de passage. C'est ce qu'a indiqué l'armée israélienne. Et Anthony Blinken s'est lui rendu de son côté au point de passage de Kerem Shalom avec Yoav Gallant, le ministre de la Défense israélienne. Et il a pu constater notamment l'attente de ces camions devant ce point de passage.
S'agissant de l'accord lui-même, on sait ce qu'il pourrait contenir.
Alors, selon un membre du bureau politique du Hamas, cet accord et cette réponse pourraient être donnés dans très peu de temps, mais nous ne voulons pas fournir d'heures ou de jours précis. On sait que le Hamas aurait demandé de nouveaux éclaircissements aux Israéliens concernant le contenu de cet accord. Et un média libanais a publié ce qui pourrait être le texte de cet accord. Cet accord contiendrait et se ferait en trois phases. Alors au cours de la première phase, elle durerait 40 jours. Au cours de cette phase, 33 otages seraient libérés. Alors c'est un chiffre, hein, 33 otages qui revient en effet ici depuis plusieurs jours et qu'on a entendu à plusieurs reprises notamment être évoqué par les médias israéliens. Ces otages, il s'agirait de femmes, également de personnes âgées de plus de 50 ans, de malades et de blessés. 20 prisonniers palestiniens pourraient être échangés en échange de chaque otage. Il s'agirait de prisonniers palestiniens mineurs ou de prisonnières palestiniennes qui ont été condamnées pour atteinte à la sécurité d'Israël. 40 prisonniers palestiniens pourraient eux être libérés en échange à chaque fois d'une soldate israélienne. Il s'agirait cette fois de 20 prisonniers condamnés à perpétuité et de 20 prisonniers condamnés à plus de 10 10 ans de prison. Alors ça se passerait comme suit. Le Hamas, dans un premier temps, le premier jour de l'entrée en vigueur de cette trêve, pourrait libérer 3 femmes et après libérer 3 otages tous les 3 jours jusqu'au 33e jour où il y aurait à nouveau des négociations. À partir du 16e jour tout de même de cette trêve, il est dit que des discussions indirectes recommenceraient pour établir un calme durable, cette fois à Gaza. Et puis en même temps, pendant cette première phase, l'armée israélienne devrait normalement commencer à se retirer de certaines zones de la bande de Gaza, et ce qui permettrait également à une partie de la population déplacée de pouvoir notamment retourner chez elle dans le nord. Encore une fois, ce sont des choses qui ont été publiées sur, par exemple, un média libanais, comme je vous le disais. Il faut bien sûr prendre tout ça avec beaucoup de précautions.
Merci beaucoup, Pauline Godard, en direct de Jérusalem pour France 24. Alban Micosi, d'abord, le timing en tardant à répondre. Le Hamas donne le sentiment qu'il refuse de consentir à un quelconque ultimatum d'Israël.
Il y a ça. Et puis le diable est dans les détails. Vous savez, comme l'a dit Pauline, il y a plein de points précis qui doivent intervenir à une date, à un moment de l'accord. Ça coince ce soir effectivement sur cette notion de cesser le feu permanent ou pas, et ça coince aussi sur la manière dont Israël laisserait les civils rejoindre les zones nord du pays. Bref, le diable est dans les détails, l'accord, on va dire, est très avancé, pour autant il n'est pas signé.
Bruno, le Hamas sait bien qu'un cessez-le-feu permanent et le retrait de la bande de Gaza, comme il semble exiger, sont deux conditions impossibles à satisfaire pour le cabinet de guerre israélien, sauf à faire exploser le gouvernement Netanyahou.
Oui, alors bon, je ne suis pas persuadé que ce soit sa préoccupation principale, l'explosion du cabinet Netanyahou.
Enfin, s'il n'y a plus de cabinet, il n'y a plus d'accord.
Oui, mais je pense que c'est surtout en interne, entre notamment la direction militaire, avec le désormais fameux Yahya Sinwar et son second Mohamed Deif, et la direction politique du Hamas, que visiblement aussi les choses ne sont pas simples. Et puis, plus globalement, même si effectivement vous avez raison, c'est pas très réaliste, la demande du Hamas, c'est quand même ce qui fait un peu son corpus idéologique, c'est-à-dire demander un arrêt total des combats et le retrait des forces israéliennes. Là, c'est plutôt à usage interne, c'est un peu sa crédibilité vis-à-vis de l'opinion publique palestinienne, si on peut employer cette expression, ce qui est un facteur important, notamment quand on regarde par exemple les derniers sondages en Cisjordanie, hein, où le Hamas a une cote de popularité, je mets l'expression entre guillemets, estimée entre 30 et 40% de la population. Donc il sait qu'il ne peut pas, qu'il doit faire des concessions, mais que sur ses fondamentaux, c'est compliqué de reculer.
Et en même temps, un retard dès l'offensive sur Rafah ne fait que différer un risque existentiel pour le mouvement palestinien. Ça, on imagine que le Hamas le sait et qu'il veut écarter définitivement cette possibilité avec cet accord, Alban Micosi.
Vous avez raison, mais l'offensive sur Rafah, Benjamin Netanyahou a dit que de toute façon, il ne serait pas tenu et qu'on verrait tout à fait à la fin de cette trêve, puisque aux yeux des Israéliens, il s'agit d'une trêve de 40 jours. Ce qui est certain, c'est qu'ils n'entendent pas la même chose dans les termes. Et deuxièmement, l'offensive sur Rafah, vous savez, c'est une menace. Mais réellement, à quoi aboutir est-elle ? Effectivement, les Israéliens ne sont pas encore rentrés dans Rafah, ils ont fait le reste du territoire. Mais est-ce que ça changerait fondamentalement la donnée ? Non. L'objectif premier qui était éradiquer le Hamas, on sait très bien, vous et moi, que ce sont des mots, la réalité.
Hier, Patricia Lemonaïsien nous disait c'est le corridor de Philadelphie qui est visé. Alors, par l'armée israélienne et qui aurait un effet sur les capacités du Hamas.
Le corridor de Philadelphie, pour nos téléspectateurs, c'est la liaison avec la frontière égyptienne. Oui. Il y a des tunnels, ça tout le monde le sait. Mm-hmm. L'idée des Israéliens, c'est de se rendre maître de ces tunnels pour interrompre la circulation qui va à l'intérieur. Mm-hmm. Ça, c'est un vrai enjeu militaire.
Bien décidé en tout cas à poser un cessez-le-feu, les États-Unis pèsent de tout leur poids avec leur secrétaire d'État Anthony Blinken en visite pour la 7e fois depuis le début de la guerre. Après une rencontre avec le président israélien Isaac Herzog, il s'est rendu, hein, comme vient de nous le dire Pauline, sur le point de passage de l'aide humanitaire destinée aux Gazaouis côté israélien à Kerem Shalom. Les temps forts de cette visite avec Noémie Roche.
Israel has made very important. Israël a fait des compromis très importants concernant la proposition qui est sur la table, démontrant ainsi sa volonté d'obtenir cet accord. Maintenant, comme nous l'avons dit, c'est entre les mains du Hamas. Le Hamas doit décider s'il accepte cet accord et s'il veut réellement améliorer la situation des gens dont il prétend se soucier.
« À la sortie de son hôtel, c'est un accueil plein de chaleur qui attend Anthony Blinken. Dans le groupe de manifestants venus crier leur reconnaissance, des proches des otages encore retenus dans la bande de Gaza, le secrétaire d'État américain le sait, leurs attentes sont immenses.
Ramener vos proches à la maison est au cœur de tout ce que nous essayons de faire et nous ne nous reposerons pas tant que tout le monde, hommes, femmes, soldats, civils, jeunes et vieux, ne seront pas de retour à la maison.
Et pour cela, Anthony Blinken compte sur la nouvelle proposition de trêve entre Israël et le Hamas. Celle-ci prévoit un échange entre des otages israéliens contre des prisonniers palestiniens et un cessez-le-feu de 40 jours à Gaza. Un arrêt des hostilités, attendu désespérément par la population de Gaza, en pleine catastrophe humanitaire et au bord de la famine, selon l'ONU. Alors que le Hamas n'a pas encore rendu sa réponse concernant cette trêve, l'impatience commence à poindre chez le chef de la diplomatie américaine. Il a rappelé sa volonté de parvenir à un accord pendant sa rencontre avec le président israélien.
Nous sommes déterminés à obtenir un cessez-le-feu qui ramène les otages chez eux et à l'obtenir maintenant. Et la seule raison pour laquelle cela ne serait pas possible, c'est le Hamas. Il y a une proposition sur la table et comme nous l'avons dit, pas de délai, pas d'excuses.
Autre objectif pour Anthony Blinken, presser le Premier ministre israélien de renoncer à une offensive terrestre à Rafah dans le sud de Gaza, où s'entassent 1,5 million de Palestiniens, en majorité déplacés par la guerre. Une offensive qui serait une tragédie sans nom, selon le secrétaire général de l'ONU, mais que Benjamin Netanyahou se dit déterminé à mener.
Bruno, les États-Unis pressent le Hamas d'accepter l'offre de trêve israélienne qu'ils présentent comme particulièrement généreuse, et surtout pour éviter une offensive israélienne à Rafah.
Oui, et là, ça rejoint, même si évidemment ce n'est jamais dit, surtout pas par Anthony Blinken, des préoccupations plus de politique intérieure aux États-Unis. En pleine campagne électorale, Joe Biden voit la grogne, une forme presque de rébellion dans une partie de l'électorat démocrate, notamment chez les jeunes, dans les universités en particulier, et puis au sein de la communauté arabo-américaine aussi. Et comme on sait que l'élection va se jouer à très peu de choses dans les fameux swing states, eh bien, il sait que lui doit obtenir une forme de succès diplomatique et aussi un message à adresser à cette partie de l'électorat qui s'apprête à rester chez elle le 5 novembre. Or, chaque voix va compter.
Quel levier ont-ils les États-Unis sur le Hamas pour obtenir une réponse, Almand Micosi ?
Sur le Hamas directement, peu. Ils peuvent parler aux alliés historiques du Hamas, c'est-à-dire principalement au Qatar. Ils peuvent faire passer un certain nombre de messages. Après, comme vous le disiez très justement tout à l'heure, le Hamas a sans doute aussi intérêt à une cessation, même provisoire, des bombardements, simplement parce que la guerre d'attrition qui a été menée par Israël sur le Hamas a produit des effets, ça c'est une certitude, et qu'à un moment, le Hamas en est conscient lui aussi.
Alors que Washington, comme d'autres capitales occidentales, font face à la pression d'une partie des opinions publiques, vous venez de le dire Bruno, à gauche notamment, comme ici en France, après les campus, la colère envers Israël s'exprime à travers le mouvement social, les défilés du 1er mai émaillés d'incidents, comme à Saint-Étienne où Raphaël Glucksmann, tête de liste aux prochaines élections européennes de la liste du Parti Socialiste, a dû être exfiltré du cortège. La gauche radicale pointe du doigt sa trop grande indulgence envers Israël. Il a réagi, écoutez.
Ils ont décidé de faire une campagne qui électrisait tout. Ils ont décidé que, alors qu'on a une extrême droite à 40%, 80% de leurs tweets à l'AFI sont consacrés à Raphaël Glucksmann et à la liste socialiste Place Publique. Donc à un moment, ils ont choisi leur adversaire. Nous, notre adversaire, ça reste Jordan Bardella. Nous, notre adversaire, ça reste la montée de l'extrême droite.
L'urgence, Bruno, à ce qu'il y ait une trêve à Gaza, aussi pour l'apaisement du débat public ici en Occident ?
Oui, parce que le débat, effectivement, prend un tour assez radicalisé. Alors, surtout aux États-Unis, mais ça commence en Europe et également en France. Bon, même si le mouvement dans les universités en France reste beaucoup plus modéré comparé à ce qui se passe aux États-Unis et d'ampleur moindre surtout. Mais on voit des positions radicalisées qui s'expriment également lors de manifestations parce que, en fait, voilà, Raphaël Glucksmann, on lui reproche une position position jugée un peu trop équilibrée. Donc c'est ça qui est terrible, c'est-à-dire que les opinions sont en train de basculer dans des positionnements quand même très radicaux. En gros, soit on est pro-israélien, soit pro-palestinien, et les gens qui, comme Raphaël Glucksmann, essayent d'avoir une approche un peu plus objective et un peu plus équilibrée, eh bien parfois sont très sévèrement critiqués.
Oui, parce que le Parti Socialiste NUPEM n'a pas manqué de demander à revenir sur l'accord de partenariat Union Européenne-Israël. Malgré cela, on voit Raphaël Glucksmann pris à partie, une véritable polarisation du débat public.
Oui, vous avez raison de le dire. On est en train d'observer en France ce qu'on a observé aux États-Unis. Très clairement, et qu'on observe aussi en Israël d'ailleurs, c'est qu'il y a au moment du 7 octobre une rupture dans, j'allais dire, la chaîne de la raison. Et aujourd'hui, on est forcément d'un côté ou de l'autre. Et il est difficile de faire entendre une voix simplement modérée au milieu. Ça touche la vie politique française en période électorale, ce qui est une période particulière. C'est en période électorale, toutes les outrances sont autorisées.
La colère de la rue, elle s'exprime aussi en Géorgie, mais pour d'autres raisons. C'est l'examen en deuxième lecture d'un projet de loi qui met là-bas le feu aux poudres. Inspiré par la Russie, il oblige les organisations financées en partie par l'étranger à s'enregistrer comme telles. De quoi mécontenter l'opposition qui voit là une entrave à sa volonté de rejoindre l'Union européenne. Le pouvoir pro-russe, lui, multiplie les arrestations. Reportage hier à Tbilissi de Régis Jonté et Aline Nougent.
En colère contre ce qu'ils appellent la loi russe, les étudiants bloquent les entrées du Parlement où les députés continuent la seconde lecture du texte.
On ne sera jamais d'accord avec cette loi. J'ai peur que ça nous isole du monde et surtout de l'Union européenne. C'est une pente glissante vers une rupture.
La manifestation de ce soir montre que le mouvement perdure. C'est extrêmement rare en Géorgie de voir un mouvement qui dure depuis plus de deux semaines et qui réunit des milliers de Géorgiens chaque soir contre cette loi. Je crois que c'est un vrai signe de la détermination qui anime ce mouvement.
On n'est pas optimiste ni pessimiste, nous sommes déterminés. On fera tout ce que l'on peut pour changer la situation en Géorgie. Nous allons en Europe, c'est notre dernier mot.
Le défi pour les manifestants, c'est d'être suffisamment nombreux pour faire plier un gouvernement qui tient coûte que coûte à faire adopter cette loi. Plus les députés avancent dans l'examen du texte, plus la tension monte.
Ce soir, on ne peut pas faire grand-chose parce que les Robocop sont partout. Je serai là demain et après-demain, du début jusqu'à la fin.
Un usage de la force totalement injustifié, non provoqué et disproportionné, selon la présidente géorgienne Salomé Zourabichvili. Une répression policière qui risque d'hériter encore un peu plus une jeunesse qui joue son futur.
Voilà, Ursula von der Leyen exprime au nom de l'Union européenne sa très vive inquiétude. On évoquera l'aspect européen des choses, mais vous nous confiez pendant ce reportage, Alban, que vous-même vous étiez rendu en Géorgie et que ces images vous semblent inhabituelles alors même que la population géorgienne est connue pour ses accès d'humeur.
Oui, il y a une tradition éruptive, il y a une tradition où on exprime dans la rue. Vous savez, c'est quand même un pays qui a une culture démocratique, ce qui est quand même assez rare dans le Caucase. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la présidente Salomé Zourabichvili, qui défend les manifestants, elle est en minorité parce qu'elle est obligée de cohabiter avec une majorité parlementaire qui, elle, est clairement pro-russe. Mmh. Ce qui se joue là-bas actuellement est très important. Parce qu'en réalité, Vladimir Poutine, lorsqu'il agit en Ukraine, déstabilise toute une partie des pays voisins. Et dans les pays voisins, et c'est le cas de la Géorgie particulièrement, il y a la volonté de ne pas appartenir définitivement à l'espace qu'ils appellent, eux, soviétique. Ils disent même pas russe, ils disent l'espace soviétique avec les réflexes soviétiques, comme cette loi sur les agents de l'étranger. Donc ce qui se passe là-bas actuellement doit nous interroger. Il y a un divorce très clair entre deux Géorgies, en gros une Géorgie qui regarde regarde vers Moscou et qui se dit il vaut mieux ne pas être en guerre avec notre grand voisin qui a déjà envahi une partie de notre territoire, et des jeunes principalement qui ne veulent plus entendre parler de l'espace soviétique et qui regardent vers l'Europe.
Eh oui, on se souvient déjà en 2007-2008, le président Saakachvili qui s'était illustré avec déjà Raphaël Glucksmann, d'ailleurs qu'on a vu à l'instant à l'image, qui était aussi lui-même très proche des figures de ce mouvement hostile à la Russie en Géorgie à l'époque. Bruno Daroux, une répression, on l'a dit, condamnée par l'Union européenne qui dénonce ces violences parce que cette loi, en tout cas avec cette loi, on peut dire que la Russie est en train de faire échec aux aspirations européennes de la Géorgie.
Alors écoutez, le rôle actif ou proactif de la Russie n'est pas véritablement prouvé à l'heure où on se parle, mais nul doute, que, et puis les experts sont un peu partagés, parce que certains disent que pour le moment, le Kremlin laisse faire ses affidés, et notamment le fameux milliardaire. Bidzina Ivanishvili, qui en fait tient les rênes du parti majoritaire, pour faire simple. Et ils sont très, les Russes sont très occupés par l'Ukraine, mais évidemment ils voient tout ça d'un très bon œil et attendent peut-être un moment un peu plus fort pour agir, parce que il faut bien comprendre que ce qui se passe, c'est que effectivement la majorité politique au Parlement ne reflète pas la majorité sociologique, comme disait l'autre à une époque, d'une population qui majoritairement effectivement est tournée plutôt vers l'Europe, et en particulier la jeunesse. Parce que ce qui est très frappant dans les manifestations, il y a des représentants évidemment des partis d'opposition, dont un leader d'ailleurs a été particulièrement molesté hier soir par les forces de l'ordre, mais il y a beaucoup de jeunes qui jusque-là étaient assez apolitiques et qui là descendent dans la rue parce que ça vraiment, ils sentent qu'ils ne veulent plus effectivement appartenir à cet espace du passé en quelque sorte. Il y a les réseaux sociaux et puis même si pour beaucoup ils ne sont peut-être jamais allés en France, en Italie ou en Espagne, c'est le modèle vers lequel ils veulent tendre et ils refusent qu'on leur impose avec cette fameuse loi, en fait, une manière de faire taire les opposants et de réduire la liberté de la presse et de faire à nouveau basculer la Géorgie dans l'orbite russe, voire soviétique. Il y a aussi un aspect un peu plus politique, c'est qu'il y a des élections législatives qui doivent avoir lieu au mois d'octobre, et le parti au pouvoir sent qu'il peut les perdre ou que sa majorité pourrait être diminuée. Donc, il lance l'offensive.
Il essaie de changer la loi.
Il essaie de changer la loi et il lance l'offensive dès à présent pour faire taire cette opposition ou ces oppositions.
On va vers quoi, Alban Micozy, un nouveau Maïdan, une émancipation à l'ukrainienne ou au contraire une reprise en main par la Russie 14 ans après Saakachvili?
Les prochains jours nous le diront. Ce qui est certain, c'est que vous savez, dans ces pays de l'ex-espace soviétique, il y a deux types de tensions. Il y a ce que les États baltes ont réussi à faire avec une certaine paix en 1991, c'est-à-dire de s'en aller. Et cette volonté de s'en aller, c'est la volonté de ces jeunes. Si vous interviewez les jeunes, ils vous disent « Nous, on veut sortir de l'orbite de Moscou. Nous, on préfère vivre. » Ils regardent vers un certain nombre de pays de l'Est, ce qu'on appelle, nous, les pays de l'Est, d'Europe centrale, la Pologne, la Roumanie, qui sont des pays qui se sont développés considérablement. Ils disent « Mais nous, c'est ça qu'on veut. C'est ce modèle-là qu'on veut. C'est pas le modèle soviétique. » Et puis, vous avez un certain nombre de tendances, au contraire, j'allais dire l'inverse de centrifuge, des tendances qui veulent conserver ce qu'est l'histoire de la Géorgie et qui estiment qu'il ne faut pas se fâcher avec le voisin russe parce que ce qui s'est passé en 2007 peut toujours se reproduire, que les Russes peuvent toujours revenir et écraser la Géorgie. Effectivement, en puissance militaire, il n'y a effectivement pas photo, mais ce qui se vit là actuellement en Géorgie va se vivre prochainement en Arménie, n'ayez aucun doute là-dessus. Il y a la volonté d'un certain nombre de républiques du Caucase de sortir de l'orbite russe. Quant à l'Azerbaïdjan, l'Azerbaïdjan est de fait en partie sorti de l'orbite.
Oui, pour l'orbite turque.
Pour l'orbite turque.
Et si on se place du côté de Moscou, oui. Effectivement, il y a une petite ressemblance ou une forte ressemblance avec le Maïdan de l'hiver 2013-2014 en Ukraine. Et ça, évidemment, la Russie n'en veut pas. Il faut noter d'ailleurs que la même loi avait été présentée l'an dernier, avait été retirée suite à des manifestations importantes. Pourquoi est-elle représentée là? En partie, il y a les élections, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais en partie parce qu'au mois de décembre, la Géorgie a obtenu le statut de candidate à l'adhésion à l'Union européenne. Et ça, très certainement, ça a été interprété côté russe comme une nouvelle offensive de cet Occident impérialiste, décadent et tout ce que vous voulez.
Que peut l'Europe? Pas grand-chose.
Pour l'instant, elle regarde, elle donne des commentaires. Ce qui est certain, c'est que derrière, et vous le disiez très justement de Raphaël Glucksmann il y a 10 ans, derrière la jeunesse, il y a évidemment forcément des conseils européens, un certain nombre de gens qui leur disent, écoutez, voilà ce vers quoi vous pourriez tendre. Est-ce que ça vous intéresse? Oui, ça nous intéresse. Évidemment, il y a une volonté de convaincre de la part de l'Europe occidentale, je notamment de la Roumanie qui est assez présente dans cet espace-là, qui est un jeu qui n'est pas nul.
Bruno. Oui, alors et certains experts estiment aussi que l'Union européenne a commis une petite erreur en termes de timing, puisqu'elle a accordé à l'Ukraine et à la Moldavie le statut de candidat à l'été 2022 et ne l'a pas fait à ce moment-là pour la Géorgie. Ils ont attendu le mois de décembre 2023 pour le faire. Et certains de ces experts estiment que si ça avait été fait à ce moment-là, ça aurait sans doute évité les crispations auxquelles on assiste actuellement.
Merci beaucoup Alban Micosi, Bruno Daroux, on va plus loin, c'est terminé, on se retrouve dans 4 minutes pour un nouveau journal. Restez avec nous.